Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleurs. Une émission réalisée par Corinelle, un programme Maurice Clément Fèvre. L'artiste a fait l'acquisition d'une propriété dans le bassin d'Argenteuil. Il va dorénavant s'échapper assez souvent d'un Paris bruyant pour plus de sérénité. Mais pour l'instant, il doit s'occuper de la 7e exposition. Allons voir son chevalet, Faubourg Saint-Honoré, en terre parisienne. Bienvenue chez Gustave Caillebotte. À 34 ans, Caillebotte est devenu un peintre émérite, grand ami et mécène des impressionnistes. Malgré les discordes au sein du groupe, son absence à la précédente exposition, tenace, il tente à nouveau de fédérer autour de lui le noyau des impressionnistes. En effet, il souhaite organiser la prochaine exposition de 1882. Paul Gauguin, Henri Roire se joignent à lui dans les pourparlers avec Edgar Degas. La discussion n'est pas aisée, les sujets de discorde nombreux. Par exemple, le peintre Raffaelli est sujet à controverse, car Degas exige sa participation. Dans un courrier daté du 14 décembre 81, adressé à Camille Pissarro, Gauguin présente sa démission.
Chaque année, un impressionniste est parti pour faire place à des nullités et à des élèves de l'école. Encore 2 ans et vous resterez seul au milieu des roublards de la pire espèce. Tous vos efforts seront détruits et Durand-Ruel par-dessus le marché. Malgré toute ma bonne volonté, je ne peux servir de bouffon à Monsieur Raffaelli et compagnie.
Les discussions reprennent alors entre Caillebotte et Degas, afin qu'ils se séparent des peintres les moins doués. Gustave et Pissarro essaient de convaincre Cézanne, Monet, Berthe Morisot, Renoir, Sisley de participer à cette 7e manifestation. Mais ce n'est pas gagné d'avance. D'autant plus qu'en cette année 82, le 19 janvier, le crash de la Banque de l'Union Générale déstabilise l'économie vers une dépression, fragilisant les marchands d'art, dont Paul Durand-Ruel, particulièrement lié à cette banque. Ce dernier décide de prendre la direction des négociations avec Caillebotte, dont la présence dépend de celle de Monet. Pissarro écrit à Claude Monet fin février 82 afin de lui proposer les noms retenus. Cézanne, Caillebotte, Gauguin, Guillaumin, Monet, Morisot, Pissarro, Renoir, Sisley et Paul-Victor Vignon. Il note.
Caillebotte était de mon avis pour cette liste qui présente un ensemble défendant les mêmes idées en l'art, avec plus ou moins de talent. Nous ne pouvons exiger des talents égaux, c'est déjà un grand point de ne pas faire tâche.
Une fois de plus, Gustave s'occupe de l'organisation matérielle et de l'accrochage des œuvres.
L'ultime exposition de Caillebotte.
La 7e exposition a lieu le 1er mars au 251 Faubourg Saint-Honoré chez Durand-Ruel, sous le nom Exposition des artistes indépendants. Bien sûr, Degas et Marie Cassatt en sont absents. Cézanne aussi, car il participe pour la première fois au salon, grâce à son ami Guillemet, membre du jury. Cette manifestation, homogène, est la dernière regroupant les artistes du mouvement initial. D'une qualité exceptionnelle, de par les toiles de paysage et de plein air, elle amène beaucoup de monde. Et elle est très appréciée des critiques, même si certains désapprouvent le manque de retranscription du motif au détriment des effets atmosphériques, tels la lumière. Huysmans le regrette en ces termes.
Au point de vue de la vie contemporaine, cette exposition est malheureusement des plus sommaires. Le cercle du modernisme s'est vraiment très rétréci. Une note absorbant toutes les autres, le paysage.
Caillebotte y présente 17 tableaux, parmi lesquels Boulevard d'en haut, L'homme au balcon, que nous avons évoqué précédemment. Il n'a pas hésité à prendre sa demeure pour motif. Avec Partie de Bézigue, collection particulière, nous retrouvons l'intérieur de l'appartement du boulevard Haussmann et le canapé à fleurs. Scène intimiste, réaliste, dans laquelle Martial Caillebotte est entouré de ses amis, dont Paul Urgot, assis sur le sofa. Il est le seul à nous regarder, les joueurs étant concentrés sur leur partie de cartes. Cette scène inspirera dans les années 90 Cézanne pour ses célèbres tableaux, Les joueurs de cartes. Cette toile est très appréciée de Joris Carl Huysmans. D'ailleurs, il écrit en 82 dans L'art moderne à propos de Caillebotte.
Encore que les injustices littéraires et artistiques n'aient plus le don de m'émouvoir, je reste malgré moi surpris du persistant silence que garde la presse envers un tel peintre.
Une autre scène intérieure de son domicile est dépeinte dans « Nu au divan » à l'Institut des Arts de Minneapolis. Caillebotte a brossé un corps de femme impudique, lové sur le canapé à fleurs. Cette toile tranche avec les préceptes du nu académique, mythologique. Aucune comparaison avec les nus soyeux de Renoir. Kirk Vernedo note.
Caillebotte a choisi de montrer précisément une nudité gauche et assombrie, semble-t-il, par une mélancolie d'après l'amour.
Cette nudité crue questionne et nous plonge plutôt dans l'univers de Flaubert, Balzac que dans celui de la moralité. Caillebotte n'hésite pas à provoquer parfois.
Les natures mortes de Caillebotte.
Il est un domaine où le peintre n'a pas résisté à s'exercer, c'est celui de la nature morte. Fruit à l'étalage, musée des Beaux-Arts de Boston, est exposé en 82. Cette toile colorée, au ton chaud, jaune, orangé, rouge, encadre en son centre une rangée de fruits aux nuances froides, violettes, bleu, vertes. Des paniers d'oranges, de poires, de pommes se mêlent aux barquettes de raisins, prunes et figues. Les fruits reposent sur des feuilles blanches devant des plantes vertes. Tout est bien ordonné, avec une vue plongeante, comme si nous observions l'étal. Une toile surprenante de l'artiste est celle de la nature morte, tête de veau et langue de bœuf de 82, collection privée. Sur un fond bleu-vert, une langue rose violacée est accrochée à côté de la blancheur d'une tête de veau. Contraste des couleurs, il fallait oser brosser la réalité choquante d'une triperie. Toujours rayon boucherie, Caillebotte nous dépeint dans un style pur impressionniste une nature morte, poulet et gibier à l'étalage, collection particulière aussi. Deux rangées de volailles sont alignées sur l'étal, au-dessus desquelles lapins, faisans, perdrix sont accrochés. Melon et compotier de figues, collection privée, rappellent une œuvre de Renoir de 1882. D'après Marie Béraud, Gustave et Auguste ont sans doute peint ensemble la même composition. N'oublions pas aussi nature morte aux huîtres, nature morte avec homard, côte de bœuf, hors d'œuvre, dans des collections particulières. Nous remarquons que pour Caillebotte, tout sujet est source d'inspiration, même les préoccupations les plus élémentaires et alimentaires de la vie quotidienne. Il ne se cantonne pas à son milieu bourgeois et n'hésite pas à décrire le quotidien et le monde ouvrier. Désormais, Caillebotte n'exposera plus à Paris. De ce fait, il sera absent de la manifestation de 86. Il continue de peindre notamment Portrait d'une femme vue de face sans complaisance au musée d'art de Seattle. Brossé dans des tons sombres et carmin, le personnage ne sourit pas, à l'image des portraits de Gustave, murés dans leur angoissante solitude.
Embellissement.
Caillebotte en profite pour agrandir sa propriété du petit Gennevilliers. La maison est composée de quatre chambres et du dernier confort à la mode. Il embauche du personnel en plus. Une cuisinière, une bonne, deux matelots pour l'entretien de l'embarcadère et des bateaux sont à son service. À l'arrière, un atelier sera construit, avec vue sur un grand jardin. Quatre jardiniers s'occupent de ce parc. Outre sa passion pour l'horticulture, dont nous reparlerons plus tard, son plaisir de la voile ne s'émousse pas. En effet, il dessine lui-même ses futurs voiliers, le Condor, Inès, Haricot, Sauterelle, qui participent aux régates du dimanche en Normandie, en Angleterre. En juin 82, il dessine les plans du yacht baptisé Jack, parti à Argenteuil. Durant sa vie, il va esquisser 25 bateaux. N'oublions pas Wotsbif, célèbre voilier créé en 1891, concourant aux courses de Trouville, du Havre entre autres. Vendu en 1893 aux frères Appert, il sera renommé Thaïs. Gustave encourage Paul Signac, alors âgé d'une vingtaine d'années, à s'initier à la navigation vers 83. Grâce à lui, Signac acquiert son premier bateau. Les deux artistes naviguent ensemble sur la Seine jusqu'à l'île de la Grande Jatte pour y rejoindre Georges Seurat. En cette année 83, le 30 avril, Édouard Manet décède dans d'horribles souffrances. Monet et Zola sont présents à son enterrement. Caillebotte achètera 3000 francs le balcon de Manet à la vente posthume de l'atelier en février 84 à l'hôtel Drouot. Ce sera un de ses derniers achats conséquents. En effet, depuis 82, ses acquisitions d'œuvres se font plus rares.
Dernière volonté.
Entre-temps, le 20 novembre 83, il établit un codicille à son testament de 76 qui certifie les premières dispositions, sauf les clauses devenues caduques. Sa compagne, Charlotte Berthier, de son vrai nom Anne-Marie Hagen, née Pagne en 63, recevra une rente viagée de 12 000 francs. Elle apparaît en silhouette dans le tableau de Caillebotte intitulé « Portrait de Madame H ». Il en profite pour ajourner la dette de Renoir à son égard. Renoir, souvent invité au Petit Gennevilliers, exécute en 83 le portrait de Charlotte, alors âgée de 20 ans, sous le titre de Madame Hagen, National Gallery de Washington. Gustave laisse à Jenny Courtier, sa filleule, 20 000 francs et à son frère l'entière propriété de ce qu'ils possèdent en commun, meubles et immeubles. Caillebotte entretient toujours d'excellentes amitiés avec les impressionnistes, auxquels il achète au plus haut prix leurs œuvres. Dans un courrier de 83, Camille Pissarro s'adresse à Claude Monet en ces termes.
« Je suis bien mal loti et la besace plate. Rien pour l'instant que quelques petites ventes de loin en loin faites par des amateurs timides. Bien heureux d'avoir eu Caillebotte pour m'aider à passer le cap de l'été, sans lui, mes ventes ne m'auraient certes pas sauvé du naufrage. »
Allons admirer maintenant quelques toiles de Caillebotte présentées au musée.
Du côté du musée.
En cette année 83, l'artiste peint le portrait d'Henri Cordier, musée d'Orsay Paris. Cet homme obtient le prix Stanislas Julien en 80 pour sa Bibliotheca Scenica. Gustave dresse le portrait de son ami, spécialiste de la civilisation chinoise, de profil, penché sur son secrétaire à côté de la bibliothèque. Une petite statue et ombrelle rappellent l'Asie. Le plan est rapproché. Cordier travaille, absorbé par son écriture. Une similitude existe avec le pastel de Degas de 79 à Glasgow, montrant Edmond Duranty à son bureau, devant une immense bibliothèque. Et aussi avec le tableau de Manet de 68 à Orsay, portrait d'Émile Zola, devant sa table de travail, un livre ouvert à la main. En 84, Caillebotte reprend pour Claude Monet son tableau, Le déjeuner sur l'herbe, laissé en gage. Cette année-là, il en profite pour peindre un portrait en pied d'un homme nu sortant de sa baignoire. L'homme au bain se frictionnant, 1m70 sur 1m25, musée des Beaux-Arts de Boston. Plutôt inhabituel ce tableau, offrant à notre regard un homme nu, de dos, se séchant avec une serviette. L'homme moderne est peu représenté à sa toilette, contrairement aux femmes. L'homme nu est surtout dépeint jusque-là dans la peinture mythologique, historique, mais non réaliste. Il fallait oser. Caillebotte en a franchi le pas avec cette toile. Frédéric Basile, avant lui, s'était essayé aussi au nu masculin, plus de 15 ans auparavant. Gustave nous laisse également cette année la plaine de Gennevilliers, champ jaune, le père Magloire sur le chemin de Saint-Clair à Étretat, villa à Trouville, Montgomery Gallery Kemper Corporation, décrivant une vue plongeante sur la côte normande bordée de deux villas. Pendant son séjour sur la côte normande, les vues plongeantes sont réalisées depuis les villas accrochées à la falaise. Notre voyage en terre de couleur s'achève aujourd'hui sur la dernière participation de notre peintre aux expositions impressionnistes et sur ses talents d'architecte naval et de régatier. Je vous invite à nous retrouver très prochainement sur cette même antenne, à la découverte d'autres passions de l'artiste.